Bonjour à tous, bonjour Dominique et bonjour à toutes.
Bonjour Fabienne, bonjour Fabienne. Puisqu'on est mercredi, que c'est le jour des enfants, je voudrais parler de quelque chose qui peut les intéresser, enfin j'espère. Des nouveaux mots apparaissent dans les dictionnaires, dans le Larousse, dans le Robert, enfin voilà. Il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Alors c'est une... La langue est un...
Je crois qu'il y a méga bassine.
Il y a méga bassine, bien sûr, oui, il y a méga bassine. La langue est un organe vivant, enfin voilà, donc c'est normal qu'il y ait des mots qui apparaissent dans le dictionnaire ponctuellement, quoi, de temps en temps. Alors il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, c'est le verbe se ramiter.
Se ramiter ?
Oui. Vous voyez ce que ça veut dire, se ramiter ?
Pas du tout.
Alors nous, Fabienne, nous n'en avons pas besoin parce que nous ne sommes pas désamités. Parce que désamités, c'est moi qui le propose au dictionnaire, parce que pour se ramiter, il faut s'être désamité. Qu'est-ce que ça veut dire, se ramiter ? C'est redevenir ami.
Oh là là.
Voilà, redevenir ami.
On s'est ramitié.
Voilà, alors on a été amis.
Je suis ravie, on s'est ramitié.
Alors, on était amis, on ne l'est plus, et on devient de nouveaux amis, d'anciens amis, de nouveaux amis, et donc on s'est ramité. Il y avait se réconcilier qui existait, moi ça me paraît un peu proche, quoi.
Bon, ouais. Ça pourrait être ramité,
se ramiter, voilà. Ouais. Alors, c'est pas très beau. Mais comme je le disais, pour se ramiter, il faut se désamiter. Donc je ne comprends pas que désamiter ne figure pas aux fonctionnaires. Parce que ce serait se brouiller, se fâcher. Ils auraient dû mettre désamiter en bonne logique. Mais
c'est
la logique, elle n'est pas toujours...
Je trouve que c'est pas beau du tout.
Mais c'est pas beau du tout. Alors, il y a flex office aussi. Flex office qui est dans le dictionnaire. Ça doit être né, ça, du Covid, où les gens ont un bureau nomade. En fait, flex office, c'est ça, c'est le bureau nomade. Le flex office, hein, c'est ça. Hein.
J'ai un bureau comme ça.
Alors une œuvre, par exemple littéraire écrite ou littéraire qui n'est pas sur papier, mais tout ça, ça s'appelle un webtoon. Alors d'abord, c'est de l'anglais, j'en ai ras-le-bol. Ça commence à bien faire, voilà. Et puis alors ghoster, ça veut dire éviter.
Je te ghoste.
Oui, c'est-à-dire fantomé. Ghost,
bah oui, ghost et fantôme.
Je ne sais pas. Alors, il y a mégenré. Il y a mégenré. Vous m'avez mégenré quand vous me prenez pour un garçon.
Voilà. Physiquement, Dominique, je pourrais pas faire autrement. Hein.
Oui, non, mais j'ai droit à choisir ma propre identité, mon propre genre. Je n'accepte plus d'être mégenré. Voilà. Et puis il y en a un qui me plaît parce que je trouve assez chouette. Mais je sais, il est nouveau dans le dictionnaire, mais moi je l'ai vu dans des textes du 18e. C'est que je suis très très 18e et 17e siècle. Presque tous les soirs, je lis des choses, des textes de ces. Ça me réconcilie, ça me fait du bien, cette belle langue du 18e, ça me fait du bien à moi. Voilà. Il y a des gens qui écoutent du Mozart avant de dormir, je les comprends. Moi, je lis des textes du 17e ou du 18e. Et c'est le mot malaisant, c'est-à-dire qui crée un malaise. Et il me semble que j'ai vu ça dans des lettres du 17e ou du 18e siècle. Donc, voilà. Donc parfois, le nouveau n'est pas si nouveau que ça. Voilà. Bon, mais c'est bien qu'il y ait des mots nouveaux dans le dictionnaire. Le problème, c'est que, comme à l'école, on ne leur apprend pas les anciens, ou pas assez, ça fait quand même un peu de désert, voilà. Donc voilà, il faut cesser de me mégenrer maintenant, Dame Fabienne.
D'accord, Dominique, je ferai attention maintenant. Alors, Dominique.
Tout va bien dans l'enseignement, y compris dans l'enseignement supérieur. Vous avez bien vu, Fabienne, que Florence Bergeau-Bacler, qui est une anthropologue reconnue, une chercheuse au CNRS, et qui a écrit un livre qui est le résultat de longues, longues études et d'analyses et tout ça, et c'est très factuel. C'est pas du tout de l'idéologie comme ça en l'air, c'est pas du tout sur l'effrérisme, le frérisme, c'est-à-dire les frères musulmans. Et le frérisme et ses réseaux, ça s'appelle, c'est publié par Odile Jacob, je suis en train de le lire, il faut absolument lire ça. Voilà. Donc elle démontre comment les frères musulmans, en s'adaptant, en trompant, en manipulant, arrivent à s'insinuer partout dans la société, y compris dans les sphères décisionnelles, de décision de la société, et notamment, bien évidemment, dans l'université. Donc il était prévu que cette universitaire, anthropologue, chercheuse, fasse, ma foi, c'est bien naturel, une conférence à la Sorbonne. Où ferait-elle donc des conférences, sinon à l'université, dont la Sorbonne? Eh bien non, la présidente de la Sorbonne lui a écrit qu'elle annulait la conférence parce qu'elle ne pouvait pas assurer sa sécurité. Enfin, il faut rappeler à la présidente de la Sorbonne, c'est d'organiser des conférences et de faire vivre les idées, de faire vivre l'intelligence française. Et c'est pas d'organiser la sécurité. La sécurité, c'est le boulot de Monsieur Darmanin, c'est le boulot de l'État. Donc, c'est un mauvais prétexte. Mais ça veut dire que quand on est quand même critique, et critique d'une manière scientifique, d'une manière rationnelle, pas d'une manière hystérique et militante, contre un phénomène qui est documenté, établi et prouvé, mais qui est défavorable à l'entrisme islamiste et à l'entrisme musulman, on ne peut pas s'exprimer dans l'université française et dans ce phare de l'université française qui est la Sorbonne. C'est un niveau de lâcheté d'abord de la part de ces autorités-là et de décadence intellectuelle formidable, formidable. Est-ce que vous avez entendu Madame Borne prendre la défense de ça? Est-ce que vous avez entendu Monsieur Macron dire?
Elle se balade, Madame Borne.
Ben, Madame Borne, elle attend le 14 juillet, voilà, pas pour défiler, pour se défiler. Voilà. Donc, mais Monsieur Macron aurait dû, du haut de son autorité, dire cette conférence doit avoir lieu. Parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi n'importe quel assassin mal repenti peut s'exprimer comme le Rouillant une fois à Bordeaux et d'autres ailleurs. Et puis même.
Quand je pense qu'on avait notre Tariq, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Tariq Ramadan. Lui, il faisait pas des conférences à la Sorbonne pendant un moment?
Tariq Ramadan, partout. C'était partout. Mais je crois que j'ai lu dans la presse suisse que ses ennuis s'aggravent là-bas. Hein. Il a été établi qu'il avait pris sous une emprise manipulatrice psychologique assez importante des jeunes femmes.
Plusieurs personnes.
Donc lui, ça va. Tariq Ramadan, ça va bien. Mais enfin, on est tombé dans le panneau longtemps. Vous avez raison de souligner ça. Enfin voilà, on est en France, au pays des Lumières, au pays de la pensée libre, pas la libre pensée, hein, c'est autre chose, c'est connoté autrement la libre pensée, mais de la pensée libre, et le temple absolu de cette pensée libre, c'est la Sorbonne, et voilà bien qu'on se dégonfle, devant la présentation d'un travail universitaire. J'ai honte de l'université. Moi, je suis un pur produit de l'université. Ben, je veux dire, j'ai longtemps été très fier de l'université. Je ne suis plus fier de ça.
On se retrouve tout à l'heure, Dominique. Oui. Vous allez vous calmer.
Non, je ne vais pas me calmer du tout.
Il ne veut pas.
Je ne veux pas.
Alors, Dominique, pour terminer.
Alors, pour terminer, il y a M. Wauquiez qui s'est exprimé. M. Wauquiez est très discret. C'est peut-être pas la mauvaise stratégie, parce que M. Wauquiez doit lire les sondages et il doit s'apercevoir que moins
on est visible, moins on est visible.
Voilà, c'est comme Goldman pour les personnalités mais des Français. C'est comme M. Chirac quand il était plus président. Bon, voilà, voilà. Donc, alors il a fait une interview qui est très intéressante. J'ai pas lu l'interview, mais j'ai écouté les commentaires sur l'interview. D'habitude, je vais à la source, mais là, j'ai pas eu le temps. Mais il parle de l'état profond, il le définit, l'état profond. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le définit, parce que beaucoup de gens parlent de l'état profond. Et pour lui, l'état profond, et c'est vrai ce qu'il dit, c'est on en parle souvent, ça, Fabien, ce nombre d'organismes, de contrôles qui ont un pouvoir, qui sont financés évidemment par les contribuables, mais dont les structures n'ont aucune légitimité électorale. Ils ne passent jamais devant les lecteurs. Alors ce sont des structures qui ont un pouvoir de censure, un pouvoir d'orientation, un pouvoir de censure dans tous les sens. Alors ce sont par exemple l'ARCOM, vous savez, qui chaque fois quand ça dérape sur une radio et tout ça.
Enseignement du CSA.
Oui, voilà. Et puis il y a aussi la CNIL qui voilà. Et puis moi j'ai relevé aussi cette merveille qui est maintenant cette petite structure qui est la défense des droits de l'homme, la défenseuse des droits. On dit défenseuse des droits, c'est une femme, j'en parlerai tout à l'heure de cette femme, qui est tout à l'heure ou demain, parce que c'est un peu plus long, qui est chargée de ça. Mais voilà, ce sont des structures que Wauquiez appelle à raison l'état profond, qui ont un pouvoir considérable, considérable, et qui ne passe jamais devant les lecteurs, et qui, alors il y a ça, il y a aussi l'état profond, un peu de la justice, des juges entre eux, qui c'est, parfois prononcent des peines que le public ne comprend pas. Et ça aussi, il n'y a pas du tout de contrôle citoyen, pour dire de légitimité citoyenne, de dignité publique. Il y a des pays où certains juges sont élus. Peut-être faudrait réfléchir à tout ça. Mais enfin, il y a trop de structures qui sont autarciques, qui vivent en elles-mêmes et dont les avis pèsent énormément sur la vie. Et je sais que depuis...
On oublie le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel, voilà, ce sont des gens... Alors, le Conseil constitutionnel... Alors, c'est important qu'il y ait des gens qui regardent si les choses, si ce qui est décidé, si ce qui se fait est conforme à la Constitution, c'est indispensable. Mais dans d'autres pays, dans les autres pays, ce sont pas des gens qui viennent de la politique. Ce sont des juges, ce sont des magistrats, ce sont des gens qui ont une longue expérience du droit et qui ne se soucient que du droit. Parce que là, nous, c'est tous des anciens politiques. Mmh. Hein, c'est anciens politiques. Alors, les anciens présidents de la République sont membres de droit, mais ils n'y vont pas. Monsieur Sarkozy n'y va pas, Monsieur Hollande non plus n'y va pas. Mais il fut un temps où je me souviens, il y avait Monsieur Chirac et Monsieur Giscard d'Estaing, ils étaient chacun assis d'un côté de Monsieur Jean-Louis Debré qui était le président à l'époque. Alors je ne sais pas comment ça se passait entre eux, parce que je crois qu'il y a une tradition au Conseil constitutionnel, c'est que les 9 membres doivent se tutoyer. Et j'imagine pas Giscard et Chirac se tutoyer de bon cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai bonne raison de le penser. Donc c'est ça qui crée un peu la suspicion du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils sont nommés par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale, par le président de la République, je crois aussi, oui. Et donc c'est des gens qui viennent de la politique. Et on a le même problème, si vous voulez, avec l'inspection générale de la police. C'est-à-dire, c'est des policiers qui contrôlent des policiers. Donc, c'est un peu ça
c'est
qui...
C'est compliqué.
Oui. Et puis, la police de police, mais c'est un peu compliqué. Il y a certains pays, je crois, les pays nordiques, où là aussi, ce sont des gens un peu extérieurs, des magistrats, des avocats, enfin des choses comme ça, qui constituent l'organisme de contrôle. Je ne sais pas si c'est mieux, j'en sais rien.
On se retrouve demain ?
Oui.
Même heure, même endroit ?
Oui.
D'ici là, prenez soin de vous, Dominique, et prenez soin de vous également, tous les auditeurs. On se retrouve demain.
Oui.